Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Tapis vous propose la cellule de la presse. Des analyses, des explications et un débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La cellule de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. La tribune de la presse, c'est l'actualité vue par ceux qui la traitent. C'est aussi sur le site internet de Radio Tapi, www.radiotapi.net.
Isidore Bamanaï, bonjour.
Bonjour Daniel.
Vous êtes éducateur à la vie, vous êtes en Mbujimayi. Quelles sont les nouvelles d'un Mbujimayi?
Bon, les bonnes nouvelles sont rares dans ce pays. Ben, nous pensons quand même que la vie va à bon train ici à Mbujimayi. Nous avons du soleil, nous avons des activités, des gens qui montent et qui descendent. Pour trouver quelque chose à manger.
Voilà, donc les gens vont à leur occupation quotidienne. Avec vous aujourd'hui, on va parler du tribalisme. Vous savez, le tribalisme est l'un des fléaux qui mine la société congolaise. Selon certains observateurs, cette pratique constitue un frein au développement mental et social de la population. Alors, quels sont les méfaits du tribalisme et comment aider la population à se débarrasser de cette pratique? D'abord, c'est quoi le tribalisme, Isidore Bamanaï?
Oui, merci pour la question et pour le sujet que vous avez aligné et surtout pour l'orientation que vous venez de donner. C'est une orientation intéressante. Le tribalisme vient du mot tribu, tribu qui veut dire division de peuple dans la société antique. Vous avez les Juifs, vous avez les Grecs, vous avez les Romains, mais aussi tribu qui veut dire un groupe social ou politique fondé sur la parenté ethnique. Donc, il y a là-dedans la parenté ethnique qui prime, on est deux.
Oui.
Donc, c'est ça. Le tribalisme, quand il faut y ajouter isme, c'est une philosophie, c'est une théorie selon laquelle les gens veulent vivre dans leur tribu. Il ne peut être à l'aise qu'à côté de quelqu'un de sa tribu, il ne peut accorder faveur qu'à quelqu'un de sa tribu. Donc, c'est un peu ça que ça veut dire le tribalisme.
Oui, certains affirment que le tribalisme prime sur la qualification. Vous pouvez être dans une entreprise, on donne beaucoup plus de faveurs à ceux qui sont de votre chef, donc ils favorisent ceux de sa tribu, même s'ils ne sont pas qualifiés.
Oui, si c'est cela la manière de vivre le tribalisme, c'est vraiment malheureux de le constater, et surtout nous l'avons constaté, nous l'avons vécu dans notre pays. Laissez-moi d'abord vous dire que le tribalisme est naturel, mais si on a un frère qui mérite un emploi quelque part et qu'on a la possibilité de lui donner cet emploi, je n'y vois pas de mal. Mais dans la mesure où on n'a pas défini la mission du poste qu'on veut lui confier, on n'a pas décrit les tâches, et que si les tâches concordent avec ses compétences, en ce moment-là, je crois qu'on a agi dans le mal, et quand on agit dans le mal, on est un frein pour le développement d'une communauté.
Voilà. Et Isidore Bamanaï, quelles sont les causes, pourquoi le tribalisme a pris beaucoup plus de l'ampleur si on essaie de restreindre dans le milieu du travail ou à l'université?
Bon, écoutez, naturellement, on est à l'aise à côté des gens que l'on connaît, qu'on connaît bien, on connaît leur histoire, on partage avec eux la même conception de la vie, la même manière de vivre. On est plus à l'aise. Je crois que c'est la première cause du tribalisme. On est tenté de croire que je ne peux réussir dans une affaire que quand il y a à côté de moi un frère, une sœur, un cousin. À ce moment-là, il protège l'affaire, il protège le service. On croit aussi qu'ils peuvent nous filer des informations que les autres ne veulent pas nous donner.
Oui.
Donc, c'est la première cause, elle est naturelle. La deuxième cause, c'est une philosophie qu'on a vécue pendant un bon bout de temps. Vous vous rappelez l'histoire des quotas pour l'inscription à l'université. Vous êtes de telle province, on vous inscrit. Vous êtes de telle autre province, on vous dit votre quota est terminé. Il faut peut-être changer de nom pour trouver une place à l'université. Et cela est entré dans la mentalité de nos politiciens qui ont géré le pays pendant longtemps, qui peut-être aujourd'hui aussi ça continue à se propager dans notre communauté. Et la cause, c'est que les gens disent, bon, comme je suis là, c'est une occasion, ceux qui m'entourent, mes frères, mes cousins, mes soeurs, mes tantes et mes oncles, ils peuvent trouver du travail, ils peuvent avancer, ils peuvent aller de l'avant. On oublie le bien des services qu'on veut rendre à la communauté, et on voit que le bien de ceux-là qu'on veut approcher pour leur accorder une chance dans la justice.
Mais est-ce qu'on peut dire que le tribalisme, c'est une mauvaise chose ou pas?
Bon, écoutez, le tribalisme, bon, naturellement, c'est une bonne chose parce qu'on appartient à une tribu et quand on a une possibilité de faire avancer ceux qui sont à côté de nous et qui peuvent travailler pour rendre service à la nation ou à la communauté, je crois qu'à ce moment-là, le tribalisme n'est pas une mauvaise chose. Mais si c'est seulement cela qui est la philosophie pour l'engagement, pour la promotion dans le secteur où on évolue, dans l'ONG ou dans les partis politiques, je crois qu'à ce moment-là, le tribalisme devient un vice,
oui.
Un vice très dangereux parce que devant un poste, on doit plutôt maintenir les critères, et les critères sont fixés par rapport aux tâches que la personne qui vient occuper ce poste-là devra remplir. Je crois que si chez nous, on n'a pas cette habitude d'établir le référentiel, on engage quelqu'un parce qu'il est de la famille de tel, parce qu'il est de la famille présidentielle. Parfois, les membres de la famille viennent vous prendre en otage.
Oui.
Vous ne savez plus évoluer tranquillement selon que vous avez des compétences dans ce domaine-là. Vous commencez à les regarder avant de décider, ou même quand il y a une faute qu'il faut sanctionner, ça devient qu'on hésite, on recule, on dit « bon, si je vais les renvoyer, j'aurai des problèmes dans la famille ». Je crois que c'est un peu cet aspect-là qui est malheureux dans notre pays et qui a pris de l'ampleur, une ampleur vraiment inquiétante.
Oui. Alors,
si on est un président de la République, on appartient à telle province, ça veut dire que les gens de cette province-là, ils sont comme tous des présidents de la République. Autour de ce président, il y a des gens de sa province.
Oui.
Ce sont ceux qui lui disent il faut faire ça, attention avec les gens de telle ou telle autre tribu. Je crois qu'à ce moment-là, ça devient compliqué.
Prenons par exemple une personne vient d'être nommée directeur général, quelque part dans une entreprise. Vous verrez que les gens de sa province vont organiser une manifestation en son honneur et après, c'est des frères et sœurs du village qui viennent avec des demandes pour chercher à être casés. Maintenant, qu'est-ce que cette personne doit faire? Elle se trouve dans une difficulté. Peut-être qu'il y a d'autres compétences ailleurs qui ne retrouvent pas parmi ses frères.
Oui, tout à fait. Organiser une manifestation à l'honneur de celui qui a commis une promotion, ce n'est que normal et naturel aussi. C'est une façon de dire merci à Dieu pour ce qui est arrivé dans la famille. Postuler pour un poste, tant que ce poste-là est vide et que peut-être on a des compétences pour occuper ce poste-là, c'est aussi naturel et normal.
Oui.
Mais si on prend quelqu'un qui est devenu PDG d'une entreprise, on le prend en otage par les membres de la famille qui viennent s'approcher, qui viennent lui dire à toi, attention, c'est notre poste, nous devons protéger ce poste-là. Je crois qu'on va l'envoyer dans l'obscurantisme. Il n'aura pas le temps de regarder autour de lui qui est compétent, qui peut exécuter telle ou telle autre charge. En ce moment-là, ça devient une fonction pour sa tribu et non plus une fonction pour rendre service à la communauté.
Oui.
Je crois que si on prend quelqu'un en otage comme ça, on ne lui aura pas rendu un bon service. Mais écoutez, chez nous, il y a ça aussi, on dit, on ne sait pas combien de temps tu vas faire là. Pendant que tu es là, écoute, nous, il faut qu'on en profite.
Oui.
Ceux qui disent ça, bon, je crois qu'ils ont quand même un peu raison. Parce que quand celui-là part, celui qui le remplace,
oui,
il va lui aussi amener sa vague de personnes.
De personnes, oui.
Le tribalisme n'est pas seulement social, mais il y a aussi un tribalisme politique. Où à un certain moment, pour être maire de la ville, pour être bourgmestre, pour être dans une entreprise,
oui,
on regarde de quel côté vous venez. Si vous êtes de l'opposition, on vous fait marcher, vous montez, vous descendez, vous avez un dossier qui se froisse avec la sueur entre les mains. Mais si vous êtes de la majorité présidentielle, c'est juste reçu. On crée même une place là où on ne devait pas avoir besoin de quelqu'un. Question de garder ceux qui ont milité avec nous, qui ont travaillé longtemps avec nous, qui nous ont aidés à nous propulser à tel ou tel autre poste. Je crois que de cette manière-là, on est en train de tuer le pays au lieu de le servir d'une manière raisonnable.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Service.
Le tribalisme, quels sont les méfaits de cette pratique dans la société? Albert Mukendi nous appelle de Kikapa, au Kassai Occidental. Bonjour.
Bonjour, Bobby Daniel Kassama. Je voulais rectifier, c'est Guibé Naï Norbert de Kananga. En fait, je voulais un peu donner un témoignage que moi-même j'ai vécu ici à Kananga.
Oui, Guibé Naï.
Dans une famille.
Oui.
Il y avait un frère qui avait son oncle. Mais l'oncle a perdu son fils, ou son fils est né.
Oui.
Donc, quand il a perdu son fils, on a réuni tous les membres de la famille. On a posé la question, qu'est-ce qui est à la base de la mort de notre fils? Et on a trouvé, on a dit, les gens dit, oh, ce n'était pas le problème. On dit, non, écoutez, il y a eu quelqu'un qui est venu tuer ça. Oh, parce qu'il n'avait pas voulu que ce fils ici puisse aller de l'avant. Alors, il a trahi. Alors, l'oncle a trouvé le boulot, une place dans la vie, dans une... il a trouvé un boulot quelque part.
Voilà, oui.
Dans une institution de la place.
Oui.
Quand il a trouvé un boulot,
oui,
il était responsabilisé un peu d'accueillir les gens, de chercher les gens qu'il pouvait lui-même engager.
Et qu'est-ce qui s'est passé après?
Alors, quand il a trouvé les gens, dis-moi, mais j'ai mes frères. Ah, ce sont les frères qui m'ont trahi. Je ne cherche pas mes frères. Je vais aller chercher les gens d'une autre place. Je ne prends pas mes frères. En ce cas, est-ce que c'est le tribalisme? Parce qu'il va chercher les gens. Et on a trouvé qu'il a travaillé, à un certain moment, il a perdu son travail. Il n'est plus aujourd'hui là où il pouvait être. Il a perdu le privilège de travailler là où il pouvait gagner l'argent.
Alors Norbert, vous voulez dire que ce monsieur a été à un poste pour de recrutement, il n'a pas voulu prendre ses frères parce qu'il était à la base de la mort de son fils.
Oh, voilà. Maintenant, je voulais poser la question.
Oui.
Dans ce cas, est-ce qu'on peut accepter encore, on peut récupérer l'ancien oncle ou bien on peut le rejeter comme il avait refusé pour engager ses frères?
Oui.
Deuxième question que je voulais poser.
Rapidement, oui.
Notre invité Isidore Bamana, qui est l'éducateur à la vie.
Oui, allez-y rapidement.
Vous savez, le tribalisme, non seulement dans la vie courante, mais aussi sur le plan politique. Vous savez, il a parlé un problème aussi.
Guibé Naï, allez-y rapidement, Norbert plutôt, allez rapidement à la question. C'est quoi la question? Soyez bref, bon, il n'est plus en ligne, je suppose. Ben. Voilà, Norbert Patient nous appelle de Manono. Voilà, Patient, bonjour.
Bonjour, Félix, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre question?
Oui, en fait, j'ai deux petites préoccupations. La première est celle de savoir s'il y a une différence entre l'identité et le tribalisme. La seconde est celle de savoir que peuvent être les conséquences positives du tribalisme.
Voilà, les conséquences positives du tribalisme. Isidore Bamanaï.
Oui, merci pour les deux intervenants. Bon, Norbert n'a pas fini sa question.
Oui.
Si je l'ai écouté un peu, il s'est posé la question de savoir si après, dans la famille, on peut reconsidérer l'oncle qui a refusé d'engager les membres de sa tribu parce que pour lui, il était à la base de la mort de son fils. Ça, c'est une autre question. Bon, je crois que dans la famille, il y a toujours moyen, après qu'il y ait une situation malheureuse qui s'est produite,
oui,
il y a toujours moyen de s'asseoir dans la famille, de palabrer, de discuter, de trouver des petites solutions à des petits problèmes qui sont arrivés dans la vie des gens. Mais si on me demande par patient la différence entre identité et tribalisme,
oui,
l'identité, ce sont les noms, l'appartenance à un village. En ce moment-là, du moment qu'on appartient à un village, on appartient ipso facto à une tribu. Donc, il n'y a pas tellement de différence entre l'identité. Je porte un nom, je suis né de tel parent, mes parents appartiennent à telle ethnie ou telle tribu. Je suis moi-même aussi de cette tribu-là.
Oui.
Bon, mais des conséquences positives, je crois qu'il peut y en avoir. Dans la mesure où quelqu'un de notre tribu a trouvé du travail, et que par sa position, quelqu'un d'autre peut trouver du travail, pas nécessairement là où lui-même travaille, il peut trouver du travail dans une autre entreprise, parce qu'il justifie des compétences. Je reviens là-dessus, parce qu'il justifie des compétences.
Oui.
En ce moment-là, quelqu'un qui a étudié pendant longtemps, qui trimballe avec son dossier, qui trimballe avec son diplôme, qui n'a pas trouvé de l'emploi, dès que quelqu'un qui le connaît, qui est de sa tribu, peut le pistonner quelque part et qui peut trouver du travail, je crois que c'est une conséquence positive. Et dans la mesure où, là où il est allé, il doit rendre un service qu'on attend de lui selon les compétences qui lui sont reconnues. En ce moment-là, je pense qu'il y a une conséquence positive. Mais je dis, si tu me permets
oui.
de reculer un peu à la question que tu m'avais posée parce que je n'y ai pas apporté des éléments de réponse.
Oui.
Vous m'avez demandé si le chef a devant lui des demandes des membres de sa tribu qui veulent le prendre en otage. Qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de gérer cette situation?
Oui.
Je pense, de mon côté, que quand on est chef d'entreprise, quand on est ministre, quand on est chef de division, c'est normal que les gens de notre famille viennent vers nous pour les retrouver du travail, c'est normal. Mais je crois qu'on doit mettre des garde-fous. Les garde-fous, ça doit être la mission qu'on assigne à tel poste, mais aussi les tâches qu'on décrit pour engager telle ou telle autre personne,
oui.
et de ces tâches, on définit les critères, et quand on a défini les critères, en ce moment-là, on peut engager. Un autre mécanisme, c'est d'organiser un examen de sélection, qu'on se mette en position utile pour être engagé. En ce moment-là, on explique à ses frères qui sont venus, écoutez, nous prenons vos dossiers, mais vous serez soumis à un oui. examen de sélection,
avec
si vous avez satisfait à l'examen, on oui. vous engage.
Oui.
En ce moment-là, je crois qu'il va se mettre derrière ce mécanisme-là. Les membres de la famille ne pourront pas tellement l'attaquer par après.
Mais si les frères en question n'ont pas de compétences, donc ils ne sont pas qualifiés pour ce poste-là et qu'ils ont échoué, après ils reviennent vous voir, s'il te plaît, trouve-moi, si tu peux me caser quelque part pour ne plus qu'avoir de l'argent.
Bon, si ce n'est que ne plus qu'avoir de l'argent, je crois qu'on comprend mal cette option de la vie d'adulte, qui est la vie professionnelle.
Oui.
La vie professionnelle, c'est d'abord pour rendre service. Qu'est-ce que je suis capable de faire dans ma vie? On devra alors expliquer à son frère, voilà, dans ma vie, je suis un bon chauffeur, je suis un bon mécanicien, je suis un bon dessinateur. Est-ce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un comme ça dans des endroits où vous passez, où vous avez des connaissances? Par votre position sociale, je peux trouver de l'emploi. Je crois que si son frère l'aide à trouver de l'emploi, pas nécessairement dans l'entreprise qu'il dirige, mais pas nécessairement dans son service, peut-être qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui a les compétences qu'a son frère, en ce moment-là, il trouve du travail en dehors de son service. Je crois que c'est même beaucoup mieux. Parce que là où on est entouré de ses frères, on risque de tomber dans le favoritisme. Or, le favoritisme n'est pas une bonne philosophie pour faire avancer le service. On accorde des faveurs à quelqu'un, même quand il ne le mérite pas.
Oui.
Or, nous devons plus privilégier la méritocratie que, par exemple, comme on chante beaucoup la parité aujourd'hui.
Voilà, donc il faut privilégier la méritocratie et non le tribalisme. Il y a Eric qui nous a écrit de Lubumbashi, il dit, c'est Eric de Lubumbashi, il dit, c'est si le tribalisme est devenu un critère pour être engagé. C'est un fait réel, il dit Lord Lomanaï.
Oui, c'est un fait réel, je n'en disconviens pas, c'est un fait réel. On voit quand quelqu'un occupe un poste quelque part, on est gouverneur, on est ministre, dans son cabinet, dans les services de recouvrement, dans les services de finances, au secrétariat, au protocole, etc.
Oui.
Ce sont souvent des gens de sa tribu, si pas de sa propre famille. C'est devenu vraiment un critère. Malheureusement, en ce moment-là, on est en train de laisser moisir dans les tiroirs des dossiers des gens qui pouvaient rendre de meilleurs services à la nation. On prend ceux qui ne sont là que parce qu'ils sont frères à tel, sont en train de tourner des pouces, qui ce sont des femmes qui sont en train de se miroiter tout le temps, de discuter match, de discuter politique à longueur de journée.
Oui.
Je pense qu'en ce moment-là, on passe à côté de l'essentiel et on n'a pas servi la nation comme il devait se devait, comme il devait se réaliser. C'est pourquoi nous n'avançons pas tellement et souvent on recule parce que on croit pouvoir donner un poste de travail à quelqu'un, ne fût-ce que parce qu'il est mon frère ou ma soeur. Cette pratique-là est vraiment à décourager.
C'est le rendez-vous signé de Radio Octopus. Des chiens méditerranéens et des ours dépistés à des tendances reliquées de chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Octopus. Je suis Mme Abolivier Lionetto et je vous y attends.
Le tribalisme, quels sont les effets de cette pratique dans la société? Jean Delacroix nous appelle de Lubumbashi au Katanga. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Jean?
Oui, le tribalisme est un fléau qu'on vit ici chez nous au Katanga au quotidien.
Oui.
Alors, j'aimerais savoir quelle attitude à adopter face à ce fléau. Étant donné, par exemple, pour un cas que je vis tous les jours, je suis né, j'ai grandi au Katanga, je n'ai jamais connu une autre province à part le Katanga, mais il y a une forme de discrimination à l'égard de tous ceux qui ne sont pas originaires de cette province. Alors, quelle attitude à adopter, s'exprimer ou subir cette discrimination au quotidien?
Évidemment, Bamanaï.
Oui, merci Jean Delacroix. Vous n'avez jamais été ailleurs. J'espère que vous avez quand même du travail au Katanga, parce que sinon, vous ne saurez pas tenir tous les jours. Peut-être que dans les services où vous évoluez, vous voyez des choses qui ne vous arrangent pas. Au lieu de connaître une promotion, c'est quelqu'un de la famille de tel qu'on met à la tête, parce qu'il est de la famille de tel, agent de Koya.
Ndekoya.
On parle de Ndekoya.
Oui.
Mais quelle attitude prendre?
Oui.
Moi, je crois que c'est plutôt la classe politique qui devra, à un certain moment, se convaincre que engager quelqu'un répond à un certain critère. Malheureusement, dans notre pays, parfois même pour être candidat député, on n'a pas exigé des critères qu'il faut, on n'a pas exigé des critères de compétences et des études faites. Il suffit d'être congolais et d'avoir un âge quelconque, on peut postuler. Donc vous voyez, c'est un peu cet esprit-là qui anime nos dirigeants et qui font que beaucoup de choses ne marchent pas normalement. Quelle attitude? Est-ce qu'il faut quitter? Non, moi je crois qu'il faut tenir bon. Il faut continuer à prouver aux yeux de ceux avec qui vous travaillez que vous avez de la compétence et qu'ils peuvent continuer à utiliser vos services pour le bien de la communauté. En ce moment-là, l'un ou l'autre jour, ils pourront être convaincus que ce poste-là, il revient à Jean Delacroix et non pas à une autre personne. Parce que agir contrairement à ce qui est comme des principes d'engagement et des principes pour la promotion de quelqu'un, je crois que c'est tuer un service. Parce que quand on a tué un service, c'est visible à l'œil nu. Si le service n'avance pas,
oui,
même qui dirigent ce service-là, ils vont se rendre compte que le service n'avance pas. Et je crois qu'ils auront rendu de mauvais rendements dans leur communauté, et la communauté va reculer. Il ne faut jamais fuir une situation. Au contraire, nous devons nous mesurer à l'obstacle. Avec toute l'intelligence que nous avons, avec un peu de patience, avec un peu de courage, et aussi avec une petite dose de la foi, je crois qu'un jour ou l'autre, ceux qui vous menacent de vous faire partir de la province où vous n'êtes pas originaire, vont se rendre compte qu'ils ont commis une bêtise.
Voilà. Blanchard Luana nous appelle de Mbandaka. Il dit, comment peut-on aider certaines personnes à bannir le tribalisme, surtout dans les milieux ruraux de la RDC? Il y a certains milieux, quand vous arrivez, on vous traite de Kouya-Kouya, vous êtes un non-originaire, tout ça, et puis il y a une certaine discrimination.
Oui. Charles, je crois que vous soulevez une grande question. Une société, on n'est pas regardé avec des yeux doux. On se dit, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous?
Oui.
Ça arrive. mais il faut, à mon point de vue, appuyer sur les facteurs d'éducation. Il faut qu'au niveau de la famille, que les parents inculquent à leurs enfants la valeur que nous sommes tous des êtres. Nous sommes des êtres humains, nous appartenons nous tous à notre nation, où nous appartenons nous tous à notre province, où nous appartenons nous tous à notre territoire. Je crois que si on a inculqué cet esprit de civisme, de citoyenneté aux enfants depuis la famille, et peut-être aussi à travers l'école et à travers les églises, je crois que petit à petit, la manière de vivre des gens, leur conception pourra changer, et la vie pourra peut-être passer de manière paisible entre les gens des différents coins.
Voilà, merci Isidore Bamanay, éducateur à la vie, intervenant de Kumbujimaï. Merci et bonne journée.
Merci à vous et au revoir Daniel.